Aujourd'hui, à Rencontre, qu'en est-il du dieu de violence? Avec le commandant Guy Labouéry. Le commandant de vaisseau, Guy Labouéry, est un homme pour le moins étonnant. Il commande un vaisseau de guerre, le Montcalm. Il est marié et père de 4 enfants et déjà grand-père. Et, comme sa femme, il est profondément engagé dans des études religieuses. Le commandant Labouéry a en effet étudié, il y a quelques années à peine, la théologie et l'écriture sainte. Il a même publié un livre intitulé « Dieu de violence ou Dieu de tendresse ». On dit souvent de nos jours que ce problème est le plus important qui s'impose aux croyants, à savoir, si Dieu existe, est-il vraiment un Dieu à la fois tendre et violent? Toute cette entrevue portera sur cette question capitale, fondamentale et difficile. Mais le commandant Labouéry sait en parler simplement et avec clarté. Il est interviewé chez lui à Paris par Marcel Brisebois.
Guy Labouéry, vous avez écrit un ouvrage intitulé « Dieu de violence ou Dieu de tendresse ». Et cet ouvrage, on nous le dit, vous l'avez écrit, vous l'avez publié après avoir fait des études de théologie. Pourquoi un homme, un militaire de carrière, vous étiez, je pense, à ce moment-là même professeur à l'école...
Non, pas encore, non.
Non,
non, bon. C'est après.
Après, mais enfin, vous avez été professeur à l'école militaire, etc. Vous êtes un militaire de carrière. Pourquoi faire des études de théologie?
D'abord parce que je crois que la foi est quand même au centre de la vie, que Dieu est au centre de notre vie, non seulement personnelle, mais de la vie de notre ménage, et que nous avons toujours essayé d'approfondir un petit peu notre foi. Nous avons eu un certain nombre d'activités extérieures à la famille qui nous ont amené à nous rendre compte que sur un certain nombre de points, aussi bien les connaissances que nous avions que l'éducation que nous avions reçue n'était peut-être pas toujours la meilleure pour nous permettre de aussi bien de parler avec les autres que d'élever nos enfants, que de même à titre personnel de vivre notre foi. Par conséquent, ma femme et moi, nous avons décidé de faire au moins pendant 2 ans une formation complémentaire de théologie. Elle a fait des études visant plus essentiellement l'action catéchétique. Et moi, je me suis inscrit au CIF, Centre pour l'intelligence de la foi, qui avait été créé par le cardinal archevêque de Paris. Je l'ai fait en 73, c'était le CIF 4, ça a donc été créé en 69 par Mgr Marty, pour justement répondre à la demande d'un grand nombre de laïcs de Paris et même quelquefois de la banlieue parisienne sur les problèmes de théologie.
Et vous avez écrit donc cet ouvrage « Dieu de violence ou
alors,
Dieu de tendresse ».
En même temps que c'est... Alors on fait des études pour 2 ans et on s'engage à l'issue de ces 2 années à faire un mémoire sur un sujet au choix. Mémoire pouvant aller d'une douzaine de pages à peu importe le nombre de pages, mais ça fait partie de l'engagement qu'on prend quand on s'inscrit à ces cours. Et alors, étant militaire, ayant donc m'étant un peu intéressé à la théologie et partant dans l'océan Indien, pour une longue campagne, je m'étais dit que j'allais faire un petit mémoire de 12 pages sur Dieu et la guerre dans l'Ancien Testament. Ça me paraissait marier à peu près ce que je savais faire. Puis je me suis aperçu très vite que la guerre dans l'Ancien Testament, s'il y en a beaucoup, au fond, c'est pas passionnant. Et que par contre, le problème de Dieu, ce Dieu de l'Ancien Testament, ce Dieu du Nouveau Testament, tendresse, violence, est-ce qu'il y avait là quelque chose de beaucoup plus fondamental? Et du coup, partant de 12 pages, j'en ai fini par écrire 400.
Je ne dirais pas que votre ouvrage ne m'a pas convaincu, mais j'ai presque eu l'impression, à un certain moment, que vous aviez un parti pris pour dire, finalement, oui, les hommes sont violents, les Israélites l'étaient parce que ce sont des hommes, mais le Dieu d'Israël n'est jamais, mais alors jamais, un Dieu violent. Alors que ce matin même, lisant un psaume, il n'est question que d'une chose, c'est « Venge-nous, tue nos ennemis ». Vous n'avez pas l'impression que vous avez tiré un peu les choses par les cheveux?
Moi, la chose qui m'avait le plus frappé, si vous voulez, depuis très longtemps, sur laquelle je m'interrogeais depuis que j'étais tout enfant, c'était est-ce que ce Dieu de l'Ancien Testament, qu'à l'époque, là, en 39, 40, 45, on nous présentait comme un Dieu puissant, vengeur, plein de courroux, etc., Et ce Dieu du Nouveau Testament, qui était un Dieu de tendresse et d'amour, est-ce que vraiment c'est le même? Ou bien est-ce qu'il y en a un des deux qui est faux? Et comment peut-on passer de l'un à l'autre? Et les explications que j'avais lues entre 20 et 35 ans me paraissaient plus des pirouettes que des explications fondamentales. Parce que dire par exemple qu'Israël, c'était dans sa mentalité du moment, que pour lui un Dieu ne pouvait être que Dieu vengeur, que donc Dieu s'était manifesté comme vengeur, moi ça m'a paru ultérieurement, en lisant ça de plus près, comme un véritable déni de spiritualité d'Israël. Car les grands prophètes d'Israël, je crois, ont parfaitement vu Dieu comme il était. Et pas du tout. Non, simplement, Israël voulait un Dieu comme les autres, donc il a habillé son Dieu d'un certain nombre de choses.
Israël voulait un Dieu comme les autres, donc il le voulait puissant, et même violent.
Et même violent.
Mais d'après vous, donc, les prophètes ont purifié cette image.
Oui, je crois, petit à petit. C'est ça qu'ils ont essayé de purifier d'un bout à l'autre.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des prophètes aussi qui appellent à la vengeance? Qu'il n'y a pas des prophètes
Oui,
qui
mais alors ça, je crois que c'est les. Vous savez, c'est un peu le. Il y a les genres littéraires d'abord, il y a les. Et puis moi je comprends très bien, moi aussi j'appelle à la vengeance de temps en temps. Vous savez, par moments quand on voit le sang qui coule partout, on se tourne vers Dieu et on appelle à la vengeance.
Alors, en d'autres termes, vous me dites que ce qui est d'abord fondamental.
Mais est-ce que c'est parce qu'on appelle à la vengeance que le Dieu qu'on appelle est un Dieu vengeur?
Oui. Ce que vous me dites finalement, c'est que d'abord la violence est constitutive de l'homme.
Ah oui, ça je crois qu'elle est comme ça. Bon, alors
on et que peut ça, longuement... la Bible ne pouvait pas l'ignorer.
Oui, absolument. On peut longuement disserter sur les raisons de cette violence. Moi, j'ai fait un petit essai là-dessus. Bon, est-ce qu'il est justement sur la violence et faute des origines, etc. Enfin, c'est. Mais je crois, bon, bah, nous sommes dans un monde de violence. Chacun de nous est violent, a sa part de violence. Il faut essayer de savoir pourquoi, de façon à agir dessus. C'est. Mais nous sommes violents. Ça, je crois qu'il n'y a rien à faire.
Violent parce que, comme vous le dites, il y a en nous les trois voluptés, les trois concupiscences, le désir du pouvoir.
Oui, de l'avoir et de la gloire,
et de la
je crois
gloire.
Que oui, ça c'est vrai. Moi, ce que j'ai retiré de plus de cette étude là que j'ai faite, qui a quand même duré 4 ans, c'est l'extraordinaire, mais vraiment, je vais dire emboîtage, c'est pas le bon terme, mais l'extraordinaire jaillissement du Christ à partir de l'Ancien Testament. C'est une chose qui ne m'était jamais apparue étant enfant, car on ne nous parlait pas de l'Ancien Testament. Pratiquement pas à l'époque. Le Christ, il arrivait là un peu comme des cheveux sur la soupe, au fond. On disait, tout ça, c'était préparé par le peuple juif, et puis, pratiquement, on s'arrêtait là, le catéchisme démarrait de façon tout à fait différente. Ça n'était que le Nouveau Testament. Moi, si vous voulez, d'avoir fait cette étude, ça m'a permis de vraiment réinsérer toutes mes racines spirituelles dans tout l'Ancien Testament. Car je trouve qu'il y a une continuité fantastique, que le Nouveau Testament est inexplicable sans l'Ancien, que l'Ancien n'a pas de sens sans le Nouveau.
Mais que, parlons de Jésus, puisque vous venez justement d'en parler. Comment réagissez-vous à cette conception de la théologie chrétienne, d'un Dieu qui finalement a été trompé par ceux qu'il avait créés, et qui désormais, à partir de là, ne peut être satisfait que par des sacrifices?
Ça, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Je crois que c'est nous qui disons ça. Je crois que c'est nous qui disons ça. Moi aussi, j'ai longtemps été heurté. C'est derrière le sacrifice, je mettrais un autre problème, qui est le problème de la souffrance. Parce qu'au fond, un sacrifice tel que moi on me l'avait appris, ça consistait à se faire souffrir.
Oui, mais c'est ce que dit toujours la morale chrétienne. Il faut offrir à Dieu des sacrifices.
Je crois qu'il faut offrir tout ce que l'on vit. Est-ce qu'il faut lui offrir des sacrifices? Il faut lui offrir notre souffrance, oui, et en évitant d'en infliger à d'autres, par contre. Je crois que... Non, moi, cette affaire de sacrifice m'a toujours laissé beaucoup de malaise. Je pense que...
Mais le Dieu de Jésus-Christ est celui qui demande la mort de cet homme qui est son fils.
Il n'a rien demandé. C'est le fils qui s'est proposé. Et je ne suis pas sûr au départ que le fils il s'est proposé de, je vais pas dire de réinsérer l'homme, dans l'orbite qu'il avait quitté, si vous voulez, si on prend ça en termes modernes, pour les enfants modernes qui connaissent très bien tout ce qui est mouvement de satellite artificiel. Je crois que le Christ est venu pour réinsérer l'humanité sur une orbite qu'elle avait quittée. Est-ce que pour ça il fallait qu'il meure? Oui, sûrement, puisqu'il était homme, pleinement homme. Ça, j'en suis convaincu. Est-ce qu'il fallait qu'il meure dans la souffrance? Alors,
mais,
ça,
oui.
C'est une autre affaire.
Mais,
et c'est la liberté des hommes qui en a décidé.
Deux choses. Vous allez trop vite pour moi. Il fallait qu'il meure. Et vous avez des pages là-dessus.
Oui, je
Pourquoi
crois.
Fallait-il qu'il meure?
Parce qu'il était homme pleinement et qu'un homme, ça meurt. Un homme, ça meurt. Alors, il peut y avoir 1000 morts. Il y a des morts douces, il y a des morts tranquilles, il y a des morts anesthésiées, il y a des morts horribles, il y a des morts de toutes sortes.
Donc, tout fils de Dieu qu'il était...
Tout fils de Dieu, il a accepté de mourir comme homme.
Il ne pouvait échapper à la mort dans la mesure où il avait accepté un destin d'homme.
Absolument, il ne pouvait échapper à la mort. Alors, cette mort, c'est peut-être une mort comme la dormition de la Vierge, tout ce qu'on voudra, mais ça pouvait être aussi bien une mort violente. Ça a été une mort violente, de par la volonté des hommes et de par la liberté de Jésus qui l'a accepté. Alors qu'il aurait très bien pu la refuser.
Et pourquoi, justement, ça a été une mort violente?
Parce que je crains qu'il n'y ait pas d'autre réponse pour le moment dans le monde que la violence à un certain nombre de choses. Et que le monde des hommes soit un monde, effectivement, de violence. Parce que, vous savez, c'est la solution simple, la violence. On s'imagine toujours qu'en supprimant la vérité, ou ce qui vous gêne, le mensonge qui reste va devenir la vérité, ou que ce qui est gêné va devenir libre. En réalité, c'est pas vrai. C'est la solution extrêmement simple, la violence. Je crois que c'est ce qui est la solution la plus simple. On croit avoir supprimé le problème. C'est tellement vrai qu'il y a toujours un bout de phrase qu'on oublie dans la décision de tuer Jésus, mais qui m'a toujours beaucoup frappé. C'est dans l'évangile de Jean, je crois, oui, c'est après l'affaire de Lazare. On décide de tuer Jésus, pas seulement Jésus, on décide de tuer aussi Lazare. On l'oublie toujours, ça. Mais le pauvre Lazare, il a sûrement passé de vie à trépas dans les 3 jours. Pour la même raison, pourquoi? Parce qu'il était témoin d'une chose qui s'était passée. Il fallait l'effacer. Bon, alors bien sûr, ensuite on est parti que sur la passion et la résurrection de Jésus, qui est l'événement central... Mais là, c'était pareil. Et partout dans le monde, on veut toujours supprimer les témoins. Toujours. Laisser vivre un témoin, ça paraît aberrant.
Et dans cette perspective, que signifie pour vous la résurrection de Jésus?
Alors pour moi, c'est, si vous voulez... il faudrait que je remonte très très loin. Je pense que pour moi, c'est le signe et le moyen pour l'humanité de faire un saut qui sera le saut collectif qu'elle attend depuis toujours, depuis très longtemps, sous des formes extrêmement diverses, que ce soit les lendemains qui chantent, que ce soit la cité future, que ce soit la Jérusalem céleste, que ce soit tout ce que vous voudrez, et qui est l'humanité de demain, ayant fait un saut, qui est un saut spirituel à mon avis. Et je crois que la résurrection de Jésus, c'est ça, c'est les prémices de cela.
Mais il reste qu'on a beau dire que le Dieu de la Bible est en réalité non pas un Dieu de violence, mais un Dieu de tendresse. Il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas éliminer tous ces textes.
Jamais de la vie.
Alors comment les lire?
Je crois que la Bible, c'est l'histoire de l'homme. C'est un document non seulement spirituel, mais un document anthropologique fantastique. Et on sent bien vivre tous les hommes. Moi, je les trouve formidables. Vous prenez des figures comme Moïse, comme David. On en avait fait, nous, dans notre enfance, c'était des héros spirituels absolument extraordinaires. C'est des bandits. Pour certains, tous ces hommes sont de véritables salopards. Bon, ben, ils racontent leurs histoires. Et en même temps, on sent très bien qu'à l'intérieur, ils sont travaillés par quelqu'un. Quelqu'un en qui il se jette, en qui il croit, en qui il... dont ils s'éloignent, vers qui ils reviennent. Moi, je trouve ça assez extraordinaire. Ça me paraît infiniment plus vivant que toute la façon dont on l'avait présenté, du genre la Bible, la miche de pain, je ne sais pas si vous avez ça au Canada. C'était une présentation de la Bible, c'était absolument merveilleux. Tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Je crois que ça, c'est beaucoup plus vrai. Ça me paraît beaucoup plus vrai.
Au fond, pour vous, les récits bibliques, c'est les récits d'un combat. D'un combat entre Dieu et des hommes.
C'est pas un combat, je crois que c'est l'histoire de Dieu parmi les hommes. Et un Dieu qui respecte la liberté des hommes. Et je crois que c'est essentiellement l'illustration, la Bible, enfin l'Ancien Testament, c'est cette préparation. Et c'est en même temps une illustration fantastique de la liberté d'Israël et ce qu'il en a fait. De même, vous savez, si on écrivait l'histoire de l'Église, on serait totalement stupéfait de ce que nous, chrétiens, nous faisons de notre liberté depuis 20 siècles.
Et ça ne vous choque pas? Ce n'est pas pour vous un contre-témoignage?
Mais non, je crois que, vous savez, La dérision, je crois que c'est vrai. Hein. Il y a une parole de Paul, je crois, qui rejoint d'ailleurs ce qu'avait dit Dieu à Moïse, à David, au moment du temple. Il a dit, ou bien tu seras fidèle et... je ne me rappelle plus exactement le texte, mais enfin, ou bien tu seras fidèle et le monde entier viendra dans mon temple, ou bien ce temple sera un temple de dérision. La croix, c'est la dérision suprême. Le Fils de Dieu, sur une croix, dérision. Et Paul dit, vous ne serez une véritable église que dans la mesure où vous serez une église de dérision.
Pour vous qui rejetez une certaine théologie sacrificielle, comment expliquez-vous, par exemple, que l'Eucharistie qui est au centre de la vie chrétienne soit présentée comme un sacrifice? On parle du sacrifice eucharistique,
oui,
on
mais
parle
ça...
du sacrifice de la messe.
C'est vrai, mais peut-être parce qu'on ne va pas au fond du terme lui-même, mais pour moi l'Eucharistie c'est d'abord la résurrection. Alors ça passe inéluctablement bien sûr par la croix, de même que notre vie passe inéluctablement par la mort, de même que la vie professionnelle passe inéluctablement, et pas la mienne seulement, celle je crois de tout homme, hein, passe par un déchirement de tout chrétien, en tous les cas, passe par un déchirement entre ce qu'il sent qu'il devrait vivre, qu'il devrait faire, et ce qu'il n'arrive pas à vivre, ce qu'il n'arrive pas à faire. C'est le vieil homme et le nouvel homme de Paul. Nous sommes tous déchirés, crucifiés entre les deux. Hein. Et ça, je crois que c'est vrai. Mais pour moi, l'Eucharistie, c'est justement le signe, la vérification concrète que, in fine, on arrive à surmonter cette déchirure et qu'il y a autre chose. Et je crois que, enfin, je ne sais pas, moi, j'ai été très frappé dans toute mon enfance et mon adolescence, justement, par une éducation chrétienne qui était extrêmement sacrificielle. J'étais dans des boîtes absolument ahurissantes qu'on ne verrait pas à l'heure actuelle, hein, pour des petits gamins de 9 ans, pensionnaires dans des conditions étonnantes. Hein. Je pense que c'était une erreur. Je ne le regrette pas. Après tout, ça fait partie de mon expérience, de ma vie. Ça m'a apporté du plus et du moins. On a peut-être eu tort, avec mon épouse, de montrer à nos enfants que le Christ était peut-être d'abord le Christ ressuscité, pas nécessairement d'abord le Christ sur la croix. Que bien sûr, le Christ ressuscité passait inéluctablement par le Christ sur la croix, mais qu'il y avait d'abord le rire, qu'il y avait d'abord la joie, qu'il y avait d'abord la danse, qu'il y avait d'abord le rayonnement auprès des autres... et non pas simplement des sacrifices de chocolat pour les petits chinois, ou de... Vous voyez ? Bon, alors, on a peut-être eu tort, je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas, je crois que... Les vrais chrétiens, c'est les chrétiens rayonnants. Enfin, rappelez-vous Gandhi. Gandhi, il trouvait que les chrétiens, ils manquaient de rire. Ils manquaient de joie. Je parle de lui parce qu'il est à la mode pour le moment, mais combien d'autres ont trouvé que les chrétiens manquaient de joie, manquaient de rire ? Moi, je crois que c'est...
Mais est-ce que ça veut dire que vous éliminez toute cette morale qui a été celle des chrétiens pendant très longtemps,
non,
n'est-ce
du
pas,
tout.
D'une vie justement disciplinée,
pas.
Ascétique
Mais non, parce que je crois que c'est ça la conséquence de ce rire, c'est d'avoir aussi une vie disciplinée. Avoir une vie pleine de rire, ça ne veut pas du tout dire faire n'importe quoi, au contraire. Mais je crois que c'est trouver dans ce que l'on fait, dans la discipline, voire dans l'ascèse qu'on accepte, ascèse dans tous les domaines, hein, mais y trouver la joie. Et pas un visage tiré ou défait, mais au contraire, y trouver la joie, le rire et avoir envie de le faire partager aux autres.
Mais et le Dieu de violence, est-ce que quand même ce n'était pas un Dieu... Enfin, je veux bien admettre qu'il ait été violent, mais il apparaissait quand même un Dieu juste, un Dieu qui faisait le partage entre le bien et le mal. Un Dieu peut-être rétributeur, comme on dit, mais un Dieu quand même qui... savait mettre une frontière, une limite en tel. Le Dieu de tendresse que vous proposez, enfin, que vous voyez plus réel, plus vrai, plus conforme au Dieu de la Bible, au Dieu de Jésus-Christ, est-ce que ce n'est pas quand même un Dieu un peu flou, un peu vague, un peu complaisant? Qu'est-ce que c'est au fond que cette tendresse de Dieu en d'autres termes?
Dieu un peu flou, il est toujours un petit peu flou, Dieu. C'est pour ça que moi je ramène toujours par le Christ, parce que moi je ne sais pas si le Dieu de la Bible était ce que vous dites, parce que au fond, est-ce qu'il favorisait pas beaucoup les puissants? Est-ce qu'il favorisait pas beaucoup tous ceux qui étaient... Et il n'y a qu'à voir les prophètes, hein, les prophètes qui ne cessent de taper justement sur tous les puissants, parce qu'ils trouvent que vraiment ils sont trop favorisés, qu'ils se favorisent trop dans tout ça. Justement, ce Dieu tel qu'il est présenté, je parle du Dieu tel qu'il apparaît comme ça extérieurement, parce que je crois qu'intérieurement, c'est les prophètes avaient parfaitement vu qui était ce Dieu d'amour, un Dieu très exigeant, parce que l'amour est très exigeant. Ce Dieu qui refuse que les rois se conduisent comme ça, qui refuse que les scribes se conduisent comme ça, qui refuse surtout que les prêtres et les prêtres d'Israël se conduisent comme ça. Une chose qui m'a beaucoup frappé, moi, dans l'Ancien Testament, c'est que les prophètes sont toujours hors du temple. Ils ne sont jamais dans le temple. Dans le temple, il y a les prêtres. C'est affreux pour les prêtres. Et tout notre clergé devrait se poser ce problème à l'heure actuelle. Les vrais prophètes, ils sont en dehors du temple. Ils sont en dehors de l'église officielle. Hein. Tous les prêtres à l'intérieur, hein, en dehors de quelques-uns qu'on va retrouvera en particulier au moment du baptême de Jésus, mais tous les autres, ils sont à l'extérieur. Tous les grands prophètes sont hors de Jérusalem. Ils cavalent dans la campagne. Ce sont des gens en liberté. Alors, vous me dites, un Dieu d'amour, ce serait un Dieu plus flou. Je ne crois pas, parce que le Christ, il n'est pas flou. Parce que le Dieu d'amour, c'est le Christ, le Père et l'Esprit, qu'il nous révèle, mais il n'est pas flou du tout. C'est vraiment, il est incarné.
Mais quand vous parlez d'amour, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous comprenez, c'est le Dieu le plus commun. Depuis les chanteurs...
Je dirais que pour moi, l'amour, c'est... On peut martiner beaucoup. Il y a un critère. C'est peut-être un... Aimer, c'est vouloir que l'autre soit plus. Voilà, moi, c'est mon critère. Hein. C'est toujours celui que je donne quand on m'en parle. Et ceci étant vrai aussi bien dans un ménage, je veux que l'autre soit plus. Hein, je veux... Et par réaction, eh bien, si c'est réciproque, finalement, on ne cesse de monter. Hein. Je crois que c'est vrai dans l'éducation de ses enfants. Si on a ses enfants pour soi, même si on les aime, au fond, non. Si on a des enfants, c'est pour eux, pour qu'ils soient plus. Pas pour qu'ils aient plus, nécessairement, mais surtout pour qu'ils soient plus. C'est-à-dire pour que toute leur potentialité soit développée au maximum. On essaie de leur offrir, dans ce qui est important, hein, le maximum de chances d'épanouissement, de rencontres heureuses, etc. Et je pense qu'un Dieu qui est Dieu d'amour, ben c'est un Dieu qui veut que l'homme soit plus, que l'humanité soit plus, qui veut la tirer vers lui. Surtout si on pense qu'à un moment ou l'autre, elle a déchu, quelles qu'en soient les raisons, quelles qu'en soient les circonstances. Je pense que l'amour, c'est ça. Il y a plein de définitions. Hein. Mais moi, j'avoue que j'aime assez celle-là, c'est vouloir que l'autre soit plus. Et au fond, s'effacer au profit de l'autre. Et on s'aperçoit que lorsque c'est partagé, jamais personne n'est effacé. Tout le monde grimpe ensemble.
Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce Dieu de tendresse, ce Dieu d'amour, est finalement aussi un Dieu qui nous laisse plus à nous-mêmes? Il me semble qu'une morale de l'amour, c'est une morale plus risquée, moins précise. Et est-ce que ça ne vous fait pas peur?
Si, bien sûr, mais ce qui fait très peur, moi je dirais, plus que ça, c'est plutôt le silence. C'est plutôt le silence de Dieu qui fait souvent peur, qui fait souvent... Parce que c'est très gentil de parler, c'est très gentil, mais bien souvent, quand on se retrouve seul en face des faits, en face des hommes, en face des circonstances, on a l'impression qu'on est dans un silence terrible. Mais ça, je crois que c'est la rançon de la liberté, c'est le... La rançon, j'aime pas beaucoup ce terme, pas plus que le terme pris, je crois que c'est l'autre face de la liberté, c'est le silence de Dieu. Du moins un certain silence, parce qu'il parle par de multiples moyens. Mais c'est surtout ça qui fait peur, le silence.
Si je comprends bien, vous avez une conception de l'homme d'abord fondée sur la liberté.
Ah oui, fondamentalement, je crois que c'est ça que Dieu a voulu nous donner. Et je crois que c'est ça que nous n'acceptons pas. Moi, 10 fois par jour, je refuse ma liberté. Dans une réaction, mais enfin, bonté divine, pourquoi est-ce que ça se passe pas comme ça, etc. Je refuse ma liberté. Pourquoi est-ce que ces gens-là crèvent de faim? Qu'est-ce que vous attendez? C'est à nous d'agir. C'est à nous à faire. Parce que c'est nous qui faisons que.
Et en face de cette liberté, il y a un Dieu qui n'est pas un Dieu commandant de bateau, qui dit quoi faire.
Non. Il a dit quoi faire. Mais il dit, c'est aux hommes à...
Enfin, il a dit
leur...
qu'une fin, mais...
Il a dit qu'une fin, mais c'est aux hommes à... Parce que s'il ne le fait pas, vous savez, moi je crois que c'est le... Une des grandes leçons des tentations du Christ au désert, ça a été ça. c'était cette tentation de court-circuiter le temps et de faire passer directement le monde qu'il a connu à la parousie. Terminé. Mais c'était la violence suprême faite à toute l'humanité. Il n'y a plus d'hommes, les hommes ont été réduits à l'état d'esclaves. C'est pas par notre propre effort, c'est pas par notre propre condition d'homme. Tout était supprimé, on était réduit à ce dont on parlait tout à l'heure à propos de produits chimiques, à une humanité de zombies. Or, je ne pense pas du tout que ce puisse être le désir d'un Dieu d'amour.
La vie chrétienne, c'est pas une vie militaire, quoi.
Ça n'est pas du tout une vie militaire.
Je dis à celui-ci, fais ceci, et à celui-là, fais cela, et il le fait.
Je crois que c'est une vie de liberté, c'est une vie de responsabilité, la vie chrétienne. Une vie de respect de l'autre, ça je crois, oui. Et c'est une vie très difficile. C'est une vie très douloureuse, pour certains. C'est pas toujours facile, loin de là. Mais je crois que c'est une vie, moi quand même, je connais pas des centaines de personnes, mais les gens qui m'ont toujours le plus séduit, et c'est pas seulement parce que je suis chrétien, mais je reconnais que les gens qui m'ont le plus séduit, j'aime les gens qui sont gays, mais c'est essentiellement parmi les chrétiens que j'ai trouvé des gens profondément gays, c'est vrai. C'est des gens qui ont la joie à l'intérieur, c'est un terme que j'aime beaucoup, la joie. Je crois qu'on reconnaît la valeur de quelqu'un à la joie qu'il diffuse autour de lui. Et alors, il y a des chrétiens, puis il y a des non-chrétiens. Parce que vous savez, je crois que seul Dieu sait qui est ou qui n'est pas de l'Église. Là, il faut se garder des apparences. Il y a l'Église visible, bien sûr. Et puis, il y a des millions d'hommes qui font partie de l'Église, j'en suis moi convaincu, par leur façon d'être des hommes, par leur façon de vivre un certain amour, hein, et qui sont de l'Église au même titre que moi, au même titre que bien d'autres. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'il faut beaucoup se méfier
des
apparences et des catégories. Oui, c'est...
Guy Labouéry, je vous remercie.